Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, 19h02, Tim Dugas continue bien évidemment jusqu'à 20h sur RMC avec Jean-Louis Tour qui est toujours là.
Oui.
Nous accueillons Julien Cazard, Daniel Riolo et Roland Courbis, la Dream Team.
Bonsoir messieurs.
Salut les amis, salut à tous.
Bonsoir les amis.
Bienvenue messieurs. Michel Patini, vous connaissez tous, bien sûr. Sur la,
De nom.
Ouais, de nom, c'est ça. Ouais. Non, mais là, on va avoir des champions là.
Ah bah là normalement
on
aura des anecdotes etc. On va apprendre des choses.
Roland, Daniel, Julien, voilà. Normalement on va savoir plein de choses. Ouais.
Daniel, alors là je vous le dis, je soupçonne Daniel de manger un chocolat. Je vous le dis, je mets les pieds dans le plat. Et il y a quelque chose dans la bouche, Daniel.
Pas du tout, Jean-Louis, tu te trompes.
Ah, t'es sûr? Comment il fait un effort pour articuler?
Pas du tout, c'était une petite amande.
Ah, voilà, je suis bon quand même. Hein.
Ça n'a rien à voir. Très bien. Le chocolat, c'est le soir.
Quel professionnel ce Jean-Louis, quand même.
Hein, t'as vu, on me l'a fait pas. Hein.
Ah, bien, s'il s'agit de bouffe, Christophe, tu le sais, rien ne lui échappe à lui.
Hein. Non, après, je regrette un peu de m'être trompé sur le chocolat. J'aurais dû comprendre que c'était autre chose.
L'horaire, 19h, moi tu sais, je suis pas tellement habitué à être à l'antenne à ce temps-là, horaire apéro et tout. Le soir, c'est chocolat.
Très bien.
Pendant l'after, c'est chocolat.
Et dans l'after, c'est quoi dans la bouche que tu as?
Ah bah, chocolat.
Chocolat dans l'after.
Ah, voilà. D'accord.
Voilà. Ouais, bah, à ce temps-là, je sais pas. Ouais.
Très bien, merci Dugas. Donc, tout le monde a compris. Alors, on va refaire, effectivement, pendant une heure, on va prendre le temps de revenir en détail sur la carrière de Michel Platini.
Merci Platini. La presse unanime ce matin salue la fabuleuse carrière du joueur de football.
Et but ! Oh, contre terrible d'Arc Canada ! Et but de Michel Platini !
Oui, Michel ! Oui, Michel ! Un coup franc magnifique !
Ligana qui revient en rentrée pour Platini ! Et but de Platini !
Alors voilà, pendant cette période sans match en France, on a pris le temps de revenir sur des moments historiques, des matchs de légende, des compétitions importantes dans l'histoire du foot français. On était obligé de prendre le temps de refaire ensemble la carrière de Michel Platini. Alors on va rester sur sa carrière de joueur, parce qu'il y aurait eu des choses à dire aussi sur l'après-carrière, que ce soit comme sélectionneur, comme président de l'UEFA, comme dirigeant. Mais donc on va rester vraiment sur le Platini joueur. Alors ce que je vous propose, c'est de faire de façon chronologique, et à chaque fois vous complétez évidemment ce qu'on peut dire. Puisque donc, Roland, toi, tu as joué avec lui en équipe de France Espoir, c'est ça?
Une fois, oui.
Une fois, d'accord.
Contre, quand il était à Nancy, et moi, j'étais à Sochaux.
Parce que toi, tu arrêtes ta carrière de joueur en quelle année?
85-86.
Voilà, donc tu es parfaitement dans les années Platini, et donc tu vas pouvoir aiguiller.
Je le connais quand il est à Saint-Étienne, je suis à Sochaux, et quand il est à Nancy, je suis à Sochaux, quand il est à Saint-Étienne, je suis à Monaco. On joue le titre, d'ailleurs, avec Saint-Étienne.
Très bien. Et Daniel connaît par cœur toute la vie de Platini. Hein. C'est comme Baggio qu'on a fait l'autre fois.
S'il faut faire un top 3, en deux émissions avec vous, on en a fait deux des trois.
Ah là, mais qui est le troisième alors?
Je sais pas.
Ah oui, d'accord.
C'est une place vacante,
Totti,
en fait.
Ah oui, Totti? Francisco Totti?
Non, pas du tout. Non, c'est une place vacante qui est un peu tournante.
Ah,
ça
d'accord.
Ça dépend des moments.
Ça dépend de ton humeur.
En fonction des petits souvenirs, de l'humeur et tout.
Voilà.
Non, alors là, lui, il ne tourne jamais.
Ah oui, après, il y a un flop 3 dont on pourrait parler aussi.
Il y a un flop 30 avec Daniel, voire 300.
J'espère que tu ne mets pas Laurent Blanc dedans. Tu ne vas pas faire cet affront-là.
Dans un flop 3 éventuel.
Flop 3.
Mais en joueur?
Ouais.
Ah bah non, pas en joueur quand même. Ah. C'était un sacré joueur.
À l'entraîneur, oui. À l'entraîneur, oui,
largement. Oui, bien sûr.
Je me rappelle que Daniel avait dit un jour que c'était le pire entraîneur de l'histoire du PSG.
Alors qu'il y a eu Guy Lacombe.
Mais ça n'a rien à voir. Guy Lacombe n'a pas du tout eu en main ce que Laurent Blanc a eu en main.
Et oui.
Ça n'a rien à voir. Le travail d'entraîneur, il faut aussi voir les circonstances, le contexte, tout ça.
On fera ce débat un jour, mais parlons donc de Michel Platini. Alors, Platini, qui déjà dans son début de d'éclosion au foot a quelques difficultés, puisque donc il naît, donc alors il grandit en Lorraine, hein, il naît à Jeuf, les Platini, et donc c'est donc logiquement à Metz qu'il doit commencer, mais dans les il y a un problème d'insuffisance respiratoire.
Mais c'est vrai que c'est après tu vas rentrer dans les détails du pourquoi. Mais c'est vrai que quand tu as 16, 17 ans, voire 15 ans, c'est difficile pour les clubs de prendre certaines décisions. Et c'est vrai que on va trouver des choses qui paraissent bizarres et anormales et extraordinaires. Mais effectivement, Metz n'a pas gardé Michel pour des problèmes là.
Respiratoires.
Et donc, il se retrouve à Nancy, faute d'avoir été récupéré par Metz.
Après, ils ne sont pas fait avoir deux fois Metz, hein. Mais s'ils sont pas forts deux fois, parce que Castendutch, ils l'ont gardé, par exemple. Tu vois?
T'as raison.
Non, mais c'est important d'apprendre de ses erreurs.
Oui, ça fait partie de sa légende, cette histoire-là. Elle est drôle. Je sais qu'elle faisait beaucoup rire Carlo Molinari, le président emblématique de Metz, qui était donc, à ce moment-là, président. Et lui, il dit oui, c'est vrai qu'on a raté, qu'il est allé chez le voisin. Il y avait pourtant un lien assez fort qui aurait pu se créer, parce que le père de Platini et Molinari venaient du nord de l'Italie tous les deux. Si Metz joue en Grenat, c'est parce que Molinari adorait le Torino, était fan du club du Torino, et Platini, l'histoire a voulu qu'ensuite il aille à la Juve et que le rival du Torino de Carlo Molinari disait de toute façon il a toujours été pour moi dans la maison d'en face finalement.
Ah oui, d'accord.
C'était assez drôle.
Mais alors visiblement quand il fait donc ce stage de présélection à Metz, il doit souffler dans ce qu'on appelle un spiromètre, je crois, j'ai lu ça là, un appareil où on mesure ta capacité respiratoire, et en fait après 10 essais,
il connaît tout.
Non, je l'ai lu, je sais pas ce que c'était.
Fantastique. Je comprends que tu devais être titulaire.
Et en fait, après, parce que j'étais pas titulaire depuis 4 ans.
T'étais dans mon ombre. En fait,
j'étais titulaire, mais j'étais ton Deschamps. Voilà. Toi, t'étais mon Zidane.
On va dire que t'étais Benzema. Ronaldo s'en va, tu vas enfin.
Titulaire en numéro 2, comme quand je disais, titulaire en deuxième mi-temps.
Bref, on s'en fout. Donc, en fait, il souffle 10 fois dans l'appareil et en fait, il s'évanouit. Et donc forcément le médecin il dit bon bah il s'est évanoui, il n'arrive pas à souffler, capacité respiratoire très faible, insuffisance cardiaque, hop, on arrête tout avec lui. En gros, il fera jamais de carrière. Bon.
Je la connaissais pas cette histoire.
Il y a une petite carrière derrière. Vous confirmez, hein?
Que le médecin ne fera jamais carrière, non. Que ça allait être un joueur qu'il pourrait pas faire carrière, enfin qu'il pourrait pas être fort et tout. Ça, oui, ça fait partie de la légende.
Mais quand même aussi, quand tu le vois morphologiquement à cette époque-là, on peut pas dire que c'est Tarzan, hein.
Ouais.
Donc il est quand même.
Oui, bon, déjà il est pas très grand. 1m77.
Bah oui, voilà. Effectivement, oui.
Bah, il est pas petit non plus pour un joueur de
pour
foot.
Pour l'époque,
il a une taille standard de joueur de foot, hein.
Ouais.
Bah oui, il a une taille standard. À l'époque surtout, il est vraiment standard comme joueur de foot.
À l'époque, 1m77, ça va.
Oui, c'est vrai.
Dans les grands joueurs de l'histoire du foot, ça se situe souvent dans ces tailles-là. Messi n'est pas plus grand, Maradona n'est pas plus grand.
Mais quand je dis morphologiquement et athlétiquement, je ne parle pas uniquement de sa taille. 77, c'est bon, ça passe. C'est en ce qui concerne donc son corps et sur le plan athlétique, on peut pas dire qui c'est un athlète
qui ressemblait à un athlète
qui faisait peur.
De toute façon, ça a jamais été une brute athlétique, hein. Ça a jamais été un mec qui courait partout sur le terrain. En fait, c'est lui ce qui a fait sa carrière et sa grandeur, c'est que c'est le ballon qui est le plus vite que lui, parce que ce qui l'a rendu célèbre au-delà de ses buts et tout, c'est de ses ouvertures, c'est sa vision du jeu. C'est qu'on disait qu'il était capable de voir derrière son dos, qu'il était capable d'avoir une vision comme on dit à 360, c'est ça, d'un point de vue technique.
Oui, c'est ça, là c'est bon,
voilà, c'est ça. C'était ça qui faisait la grandeur de ce joueur principalement. C'était ni sa vitesse, ni sa capacité à refaire des efforts et tout. Ça n'a jamais été une brute athlétique, hein, Platini.
Ouais. Alors effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de souci. Juste quand même, la moyenne de taille lors de la dernière Coupe du Monde, c'est 1m82. Voilà. Donc
la dernière Coupe du Monde, mais pas à son époque.
C'est ce que je dis. Voilà. C'est ce que je dis. C'est une petite donnée pour compléter.
T'es un grand professeur. Tu vas me manquer, moi.
Bon, allez, sincèrement. Donc,
tous les soirs, vous faites des papouilles.
Non, jamais. Je sais pas pourquoi.
Non, mais je me suis pas rendu compte en 4 ans. Je me suis pas rendu compte comment il était bon, comment il était fort.
Quelle est la date de la dernière? Parce que je me sens pas rater ça. Parce que je sais pas.
Tu faisais quoi pendant 2 heures tous les soirs, du gars?
Le 10 juillet.
Le 10 juillet, c'est la dernière?
Voilà.
Et oui.
Ah, je serai en vacances. Je sais pas si je vais pouvoir calmer.
Encore?
Comment ça, encore?
Encore en vacances?
Bah, alors, vacances
juste le 10 juillet, c'est un vendredi. Donc, c'est.
Oui, moi, ça m'arrange pas. Je pars le 9, hein.
Ce sera le 9. Voilà. La dernière de Team Dugas.
Ouais, je me ferai un podcast parce que j'imagine que vous allez pleurer. Franchement, je peux pas rater ces larmes.
Non, mais on se rappellera des bons moments, tu vois.
Je pense.
De toute façon, à partir de la semaine prochaine, on va refaire les grands débats de Team Dugas. Je vous le dis. Hein, donc,
savoir si on a changé d'avis.
Si Dugas a changé d'avis. Ouais. Si vraiment ça valait le coup de menacer Daniel physiquement. Enfin, tout ça, tu vois. On se posera toutes ces questions pendant 2 semaines.
J'ai aucun souvenir de menace physique. Hein.
Moi non plus, mais c'est la légende et c'est marrant. Bon, bref, revenons à Platini. Donc, finalement, il va à Nancy. Donc, au début, forcément, donc c'est équipe réserve, équipe de jeunes, deuxième division, et en fait, il passe en pro, milieu des années 70,
enfin 72, non, avec précision, non.
Ça doit être ça.
Oui, bah, alors effectivement,
de 12 73.
Oui, c'est ça. 72 les premières années en D1. Après, il y a une année en D2 qu'il fait donc avec Nancy, et ensuite remonté en D1. Et effectivement, il reste de 72 à 79. Et là, l'impression qu'il donne, c'est tout de suite un phénomène, coach.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Donc, c'est sincèrement, j'ai rarement vu un joueur réfléchir aussi vite, décider aussi vite. Puis en plus, tu peux avoir la vision du jeu, mais être capable à 40 mètres de faire ces transversales qui tombaient sur les pieds, que ce soit de Rouillet ou de Boniek après. Et ça, c'est, sincèrement, c'était quand même assez rare et ça faisait partie pour moi de la catégorie des grands.
Mais Roland, qu'est-ce qu'est Nancy dans l'histoire du foot si ce n'est Platini? Nancy, c'est un club, on va dire anonyme de notre championnat, qui a eu Platini dans son effectif à un moment donné. C'est un mec qui a sublimé les deux trois gars qui étaient autour de lui, qui sont devenus des gars qu'on connaît aujourd'hui, Olivier Rouillet, Jean-Michel Moutier qui lui servait de souffre-douleur quand il s'entraînait au coup franc. Ouais. Et Nancy a gagné la Coupe de France en 78 avec Platini qui est buteur ce soir-là. Nancy a existé parce que Platini est passé à Nancy. Donc rien que ça, dans une équipe qui avait jamais rien fait, qui a pas refait derrière, hein, si ce n'est, je crois qu'ils ont regagné un trophée à la fin des années 90.
Une coupe de Tony Vérel quand même, mais bon, ouais. Il a moins marqué peut-être.
Ouais. Que les esprits. Mais donc quand un joueur passe dans un club, éveille ce club et qu'en plus à côté il sublime deux trois mecs dont on se souvient parce qu'ils ont été à côté et qui en gros ils ont eu le soleil qui envoie les rayons sur eux. Bon ben qu'est-ce que tu veux de plus? Ça marque, c'est la marque des grands ça. Ouais. C'est la marque des grands joueurs.
C'est à Nancy qu'il découvre l'équipe de France aussi.
Ouais.
Après les sélections donc espoir olympique aussi puisqu'il fait des jeux de 76.
C'est déjà à Nancy qu'il fait des publicités, ce qui est très rare pour des joueurs de foot à l'époque, il y en a pas qui en font.
Ouais, qui est entouré aussi d'un agent voire même deux agents et c'était un petit peu original à cette époque-là.
Les pubs, c'est vrai, t'as raison. Il n'y a aucun footeux qui fait des pubs. Lui, il fait des pubs.
Moi, j'ai acheté du fruité. C'était dégueu, mais je l'achetais tout le temps parce qu'il y avait Platini.
On l'achetait pour Platini. Le fruité, c'est plus musclé. La publicité fruité, c'est plus musclé.
Ouais, c'était un genre d'Orangina du pauvre. C'était
donc, tu vois que ça marche, la pub.
Ah bah moi sur moi grave. Ah bah, surtout la pub pour l'école.
Il tirait les coups francs dans la pub avec les mains, les fameux mannequins en mousse avec
Fruité, c'est plus musclé.
Voilà et puis exactement. Mais si c'est vrai, c'était ça le slogan. C'était pour nous à l'époque le foot, il y en avait pas des tonnes à la télé. Je voyais Platini qui faisait une pub en survêtement et tout, c'était marquant.
Ouais. Avec énormément de buts marqués. Je dis ça parce que est-ce qu'il était vraiment numéro 10? Enfin, à l'époque, c'est le numéro 10, bien sûr, mais c'est limite deuxième attaquant, vu le nombre de buts qu'il met.
C'était la grande question, en fait.
On faisait la comparaison avec Zizou, et donc, ce que j'ai pu trouver dans cette comparaison, c'est deux numéros 10. Numéro 10 buteur Platini, numéro 10 meneur Zizou, mais Platini était aussi meneur. Donc quand tu me parles des mots à la mode, 9,5, oui, on peut même dire 9 3/4, parce que être à la Juve et marquer plus de buts que Paolo Rossi, sincèrement, ça c'est pour moi assez impressionnant.
Ouais, ouais. Plus offensif Platini que Zizou quand même.
Oui. Oui, il y avait toujours un avant-centre quand il jouait, mais on avait l'impression que l'avant-centre finalement se disait « Bon, ok, je m'écarterai pour que tu prennes la position ». En fait, le 9 lui servait de point de repère. Lui, il pouvait redescendre, prendre un ballon à hauteur
Daniel,
de sa surface
mais
ou à 30 mètres, il remontait, il faisait une ouverture et il pouvait être à l'arrivée.
Un 9 comme Giroud, c'est-à-dire qu'on lui donne le ballon dans les pieds pour aller être un repère et une cible, c'est une chose, mais le 9 Paolo Rossi, c'est pas Olivier Giroud, Paolo Rossi.
C'était un vrai 9.
C'était déjà le 9 buteur, lui aussi.
C'est vrai. C'est vrai.
Maradona, il était 10, il marquait aussi énormément de buts en Serie A. Hein. C'était un peu la même époque.
Je me demande s'il n'en a pas mis moins que Platini quand même.
Il n'y a pas photo, je crois qu'il est 4 fois meilleur buteur, Platini. Ouais.
Il est 3 fois meilleur buteur de suite, je pense.
Trois fois. C'est mes origines qui exagèrent un petit peu.
Platini, on est pendant 10 ans à 30 buts marqués.
Par contre, au niveau des ballons d'or,
au moins.
C'est lui qui nous l'avait raconté. On se retrouve quand même avec un ballon d'or raté par Platini par rapport à celui qui vote à France Football où il lui manque les voix du France Football français.
Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'à l'époque, chaque,
français,
Chaque pays est représenté par un journaliste dans le vote du Ballon d'Or. Et effectivement, le vote pour la France est par le représentant de France Football, oui, qui ne vote pas Platini cette année-là.
Ça lui fait perdre le Ballon d'Or.
C'est ça, il lui en veut.
C'est au niveau chauvinisme, c'est le monde de la mer.
Parce que Platini gagne en 84, 85 et 86, donc le Ballon d'Or. Donc je ne sais pas quelle année
l'année où il finit second, c'est ce que je te dis, qu'il lui manque les voix françaises.
Bon, après 86, avec la nouvelle formule, c'est Maradona qui l'a.
Oui, voilà, c'est ça. Il faut aussi dire qu'à l'époque, c'est un Ballon d'Or qui est européen. Autant 84-85, il y a rien à discuter. 86, en temps normal, il ne l'aurait pas eu.
Alors, je reviens sur ma chronologie.
Non, on dit une connerie. C'est 83-84-85 qu'il a. Il n'a pas 86. C'est Belanov qui l'a.
C'est Belanov.
Bien sûr. Ah, oui, c'est 3-4-5 qu'il a, lui. Lui, il a 3-4-5.
Oui, exactement. Oui,
donc on vient dire une
chose. Cherche Casier qui finit second, c'est là qu'il lui manque.
Je vais chercher. Mais enfin, on va chercher. Mais juste avant, donc, on reprend quand même le fil sur la fin 4 de Nancy, la fin de période à Nancy, où là, il est installé en équipe de France en plus, puisque il va quitter Nancy en 79. Entre temps, il y a eu la Coupe du Monde 78, le retour de la France dans une grande compétition. Ouais. Et à l'époque, c'est grâce à lui, clairement, avec le.
Il est décisif dans tous les matchs où il faut justement être décisif, notamment avec ces coups francs qu'on s'en rappelle et qu'on a vu 50 000 fois avec la voix de Thierry et de Jean-Michel. Donc c'est vrai que bon, on attendait ces matchs avec l'espoir que Platini nous file un petit coup de main.
Ouais, c'est ça. Et donc ensuite il va à Saint-Étienne. Est-ce que le transfert, comment
donc,
ça
l'équipe de France, tu fais après Jean-Louis, là c'est les clubs que tu
non faire. On peut aller sur l'équipe de France, vas-y, parce que on fait tout en même temps.
Parce que en fait quand il est à Nancy, c'est là également qu'on le découvre en équipe de France, ouais, dans ce fameux match où Henri Michel où il dit laisse-le-moi, je vais le mettre dedans, là le coup franc indirect où en gros Platini s'affirme comme le nouveau patron des Bleus. Mais en fait Platini au milieu des années 70, il arrive dans ce qu'on appelle, et très objectivement ce qu'on doit appeler, c'est le désert du football français. Après des années, oui, sans avoir existé, le football français n'est plus rien. Il y a Saint-Étienne qui réveille le foot français à 76. La même année, tu as Platini en équipe de France qui en fait prend les clés. Un an après, en 77, il met le but contre la Bulgarie, cette frappe de loin. Enfin bref, c'est le retour de la France en Coupe du Monde. Et on a là, en gros, la renaissance, ou la naissance, parce que renaître, je sais pas d'où, peut-être aller de 58, du football français, quoi. Le football français réapparaît, on reparle du foot dans le pays, parce que Saint-Etienne a fait vibrer les Français en Coupe d'Europe, et parce que les Bleus ont un nouveau leader, un nouvel homme fort, Michel Platini, qui est le mec qui semble pouvoir emmener les Bleus à la Coupe du Monde et les refaire exister dans le monde du foot. C'est un sacré événement à ce moment-là quand même. Hein.
Ouais, bien sûr. Mmh. Alors même si la France ne passe pas le premier tour, effectivement, l'important c'était de retourner en Coupe du Monde. En plus, c'était un groupe très relevé avec l'Italie et l'Argentine. Ouais. Mais c'est la Coupe du Monde en Argentine en plus, donc voilà. Mais donc effectivement, t'as raison, au moins l'équipe de France retrouve les succès. Et donc à la fin de l'année 79, il part donc à Saint-Étienne.
Ce qui était évident, parce qu'il était obligé d'aller dans le plus grand club français du moment.
C'est ça, pour être champion, puisqu'il ne le sera pas avec Nancy, et évidemment c'est l'idée, même si, alors là le passage à Saint-Étienne globalement est un peu mitigé, il reste 3 ans, et on s'attend peut-être à un peu plus en Coupe d'Europe notamment.
Franchement, quand il arrive, qu'il y a Johnny Rep, qu'il y a Larios dans l'équipe, enfin, Saint-Étienne, ils ont un sacré effectif.
Après, c'est la fin quand même.
On se dit qu'ils vont tout écraser. On se dit qu'ils vont, qu'ils vont exploser, que ça va être les nouveaux verts, parce que les vrais verts, c'était ceux de Larquet, et les nouveaux verts, c'est ceux de Platini. Là, on se dit, c'est bon, ils vont y arriver, quoi. La Coupe d'Europe, ils vont y arriver. Les championnats, ils vont gagner tous les ans. Et au final, ils gagnent un seul titre de champion.
C'est ça.
La Coupe de France, ils perdent 2 finales, une contre Bastia, une contre le PSG. Et oui, on peut parler de passage mitigé. Il y a des grands matchs en Coupe d'Europe, le fameux match à Hambourg. Il y a une raclée collée au PSV Eindhoven où il est éblouissant. Mais après, effectivement, c'est plutôt décevant. Ouais.
Lui, le premier, il dit que assez facilement qu'il n'était pas du grand Saint-Étienne, que c'était avant. Enfin, lui,
il
l'assume complètement.
Exactement. Ça, c'est vrai. Mais il dit quand même que l'année 82, donc à Saint-Étienne, c'est la meilleure de sa carrière. Là où il est le plus fort.
Et d'ailleurs, bon,
même si ça suit pas en résultat.
Oui, mais après, ce qui suit, c'est l'équipe de France.
Parce oui.
On va y arriver, mais ce qu'il fait en 84, c'est tout simplement époustouflant.
À l'euro, ouais, effectivement. Mais donc 82, on arrive quand même à la fin de la période stéphanoise que Daniel, tu nous as résumé. Ouais, donc
les demi-finales contre l'Allemagne.
Et la demi-finale, le Français RFA, effectivement, sur lequel on est beaucoup revenu. Quand même, juste un mot sur la Coupe du Monde 82 de Platini. Daniel, il est pas blessé, mais bon, on le sent parfois émoussé.
Ouais, toi t'arrives directement à la Coupe du Monde, mais avant, parce qu'en plus c'est passé.
Bah, vas-y, n'hésite pas à revenir en arrière à chaque fois.
Dans la présentation, on entendait le fameux Oui Michel.
Oui, des Pays-Bas.
C'est un très grand moment du football français, parce que moi je le répète souvent dans l'after, on oublie à quel point se qualifier pour les phases finales c'était compliqué. Il y avait beaucoup moins d'équipes que maintenant. Il y a 16 équipes à la Coupe du Monde 78. Il y en a 24 en 82. Mais aller à la Coupe du Monde, c'est méga dur, parce que dans ton groupe, t'as des équipes très compliquées. À ce moment-là, t'as les Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande, et se qualifier, c'est pas simple. Et lui, à chaque fois, t'as l'impression que quand il vient, c'est l'homme providentiel. Comme contre la Bulgarie, et dans la première qualif pour 78, il avait été bon tout le temps. En fait, avec l'équipe de France, il ne décevait jamais. Tu savais toujours que tu pouvais compter sur lui. Et 81, il y a ce fameux match contre les Pays-Bas, le fameux milieu à trois, on en avait parlé quand on parlait d'Hidalgo lors de sa disparition. Il prend les choses en main, il y a ce fameux coup franc, et là, t'as Roland et Larquet qui commentent et qui se disent « Allez, c'est le coup franc, Platini, t'es le grand spécialiste, envoie-nous à la Coupe du Monde, quoi. Ouais. » Et bim, il marque. Et il finit à genoux, les mecs autour de lui, cette image, moi, gamin, mais elle était mythique, quoi. Ouais. C'était un moment de folie pure. Mais le Parc des Princes est en folie ce soir-là.
J'avais l'impression que c'était une pénalty qu'elle avait tirée.
En plus, tu sais, l'histoire de ce coup franc, c'est qu'il rate la première fois. Il tire super mal le premier, et puis en fait, il y a faute immédiatement du joueur sur la frappe. Je crois qu'il fait une main, le défenseur néerlandais. Enfin, il y a une faute immédiatement.
Oui,
il y a coup franc sur le coup immédiatement. Et là, Platini reprend le ballon, ouais. Et tu vois dans son regard, il fait attends, c'est bon, là, j'ai déconné, mais là, c'est bon, maintenant, c'est la bonne. Il pose le ballon, il embrasse le ballon. Tu sais que ça va être au fond, quoi. Et même le gardien, merde, j'ai oublié le nom du gardien néerlandais, pourtant il est méga, méga connu, et il sait pas quoi faire avec le mur. Et il dit à Ruud Krol, qui était quand même un défenseur de légende que je crois, en plus Roland adore, Ruud Krol, et il lui dit, recule, parce que si jamais, on sait jamais où il va mettre le ballon. Et en fait, en reculant et en mettant Ruud Krol sur la ligne, ça permet à Bernard Lacombe de se mettre devant le gardien et de gêner sa vision. Et Platini, pour une fois, tire pas côté fermé, mais tire côté ouvert et ça fait but.
C'est pas Van Breukelen, le gardien?
Je crois. C'est le gardien un peu tordu de la tête, là, qui était un peu méchant.
Ouais, c'est pas Van der Sar.
Il y a pas une fois où je me rappelle de Platini, il tire un coup franc, genre lucarne gauche, et puis il a le même coup franc, et pour emmerder.
Contre l'Italie à Naples. Contre l'Italie à Naples, en 80, je crois. C'est un match contre l'Italie, ouais.
Il y a quand même ce mystère, les amis, qui est, bon, pour moi, encore un mystère. C'est quand on a quand même un Platini un petit peu blessé dans chaque coupe du monde. Et après, en fin de carrière, il semblerait, je parle au conditionnel, qu'il ait fait une grande partie de sa carrière avec un genou un petit peu fatigué et des croisés à moitié déchirés. Ça, vous l'avez pas entendu, ça?
Non.
C'est toi le docteur.
Ça m'avait marqué,
j'ai
dit heureusement qu'il
avait fini blessé.
Heureusement qu'il était blessé dans sa carrière.
L'Euro 80, parce que moi je me souviens que tu disais que c'était dur de se qualifier pour la Coupe du Monde. Moi pour moi c'était encore plutôt se qualifier pour l'Euro.
En 80, il y a 8 équipes. 80, oui, il doit y avoir 8 équipes aussi en 80.
Et moi je me souviens qu'en 80, moi c'est la première compète que je suis. Moi on n'y est pas. Et je sais pas, pourquoi on n'y est pas? On a un groupe très dur et tout. Lui, pour le coup, là,
Effectivement, il y a 8 équipes qualifiées.
Et pour les qualifications, c'était des groupes de 4 ou il fallait terminer premier?
Quatre ou cinq, effectivement. Et nous, on finit deuxième d'un groupe de 4. T'as raison, coach, derrière la Tchécoslovaquie.
Oui,
c'est ça, c'est la Tchécoslovaquie. Et c'est pour ça qu'on est content d'y être en 84 parce qu'on n'a pas à se qualifier.
Oui, c'est ça. On a eu le même raisonnement en 98 d'ailleurs.
Mais 88, on n'y est pas, je crois.
Hein. Et on l'organise et on le gagne.
Ah non, 88.
Alors justement, l'Euro, qui est peut-être le sommet de Platini, l'Euro 84 en France, on y vient peut-être dans un instant. Il y a d'autres choses à aborder aussi, quand même, dans la carrière de Platini. Les années à la Juve, le Heysel, malheureusement, la Coupe du Monde 86 également. On va en parler dans un instant dans Team Dugas. On fait la carrière de Michel Platini, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h31, Team Dugas continue avec Jean-Louis Tour, bien sûr, avec Roland Courbis, avec Julien Cazard et Daniel Riolo.
Alors, la Coupe du Monde 82 de Michel Platini, puisqu'on est en train de revenir en détail sur la carrière de Platini, sauf si vraiment il y a un truc marquant dont vous voulez parler, autre que le France RFA, on a fait deux émissions de suite dessus, voilà, on peut peut-être enchaîner, hein, sauf si vous avez un truc précis, mais on peut peut-être enchaîner avec l'Euro 84, donc, cette compétition en France en plus, où Platini va finir meilleur buteur, et je disais c'est son sommet, tout le monde est d'accord avec ça.
Ah bah oui. Bah oui, c'est difficile de faire en plus.
S'il y a un mec qui a autant marqué une compète que lui sur 84. Je pense s'il y a un équivalent à part peut-être Pelé.
Combien de buts il avait mis?
9.
9
en 6 rencontres.
5 matchs.
Et 9 dans de toutes sortes, gauche, droite, drop volée, tête.
Et c'est un euro où il y a pas de pimpin, hein. Il y a que des grosses équipes, c'est pas l'euro de maintenant. Hein.
Oui. Et tu joues Danemark, Belgique, Yougoslavie.
C'est énorme.
Et ensuite Portugal et Espagne, effectivement. Non mais c'est sûr. Et donc ça veut dire aussi que l'équipe de France a énormément marqué sur cette compétition et donc a marqué les gens aussi pour tout cela, pour le jeu spectaculaire. C'est vraiment lors de cet Euro 84 qu'on le voit, avec en plus le but en finale. Même s'il est aidé par le gardien, il y a quand même aussi un but en finale.
Non mais le coup de génie, et on va en parler. Bon, moi le coup de génie qui montre qu'il y a le génie, il y a le plus du génie, c'est quand Platini il laisse le coup franc à Domergue en demi-finale. Personne s'y attend. C'est un coup de génie incroyable. Jean-François Domergue qui tire un coup franc à la place de Platini. Parce que il se dit que c'est mieux.
Et Jean-François Domergue qui fait le Thuram de 84. Il marque deux buts ce soir-là.
Mais à l'arrivée, le but de la victoire, c'est quand même Platini qui le met. Après le débordement de Tigana. Voilà.
Évidemment.
Daniel, sur l'Euro 84, tu veux ajouter un truc? Il est où Daniel?
On a perdu Daniel.
Ah, il faut le remettre.
J'étais étonné qu'il réagisse pas. Je me suis dit il est pas là parce que c'est possible qu'il réagisse.
Ah bah je pense qu'il y a plus d'amende. Voilà.
Il est parti là. Ouais, l'armoire a dit. Ouais.
Ah oui.
Mais j'avais oublié depuis tout à l'heure je parlais. Vous m'entendiez pas? J'avais pas mis le micro.
Non. T'entendais
pas. Tu vas remplir son verre.
Nous on était en train de te mettre une amende.
C'est vrai, c'est bien, ça faisait du bien de ne pas l'entendre.
Mais ça se trouve, j'ai dit des choses très intéressantes.
Bah, oui, on ne le saura jamais.
Quel dommage. C'est chaque fois quand on n'est pas là.
Mon Dieu, quel idiot. Qu'est-ce que je peux rajouter sur l'Euro 84? Il a survolé, Julien a raison. C'est difficile de trouver un mec qui a autant marqué une compétition. Ouais, c'est vrai. Il suffit de regarder en plus la compo des équipes, même les Yougos. Leur équipe, elle est belle. Les Belges, elle est très belle aussi, leur compo d'équipe. C'était que des bonnes équipes, c'était un euro très condensé à 8 et lui il a tout cassé. C'est la seule compète où il est en totale plénitude physique, où il est pas blessé. Il a fait une très belle année avec la Juve et ils ont gagné la Coupe des Coupes en 84 contre Porto en finale. Il enchaîne, tout va bien, dans la foulée ils feront la Ligue des Champions et ils vont aller au bout dans des circonstances dramatiques, mais leur parcours fait qu'ils vont au bout. C'est la meilleure période de Platini en
fait. Est-ce que c'est pas la meilleure équipe de France aussi lors de cette compétition? Dans le sens où là t'es vraiment entre les deux, tu vois le...
C'est quoi la compo?
Alors la compo de la finale, c'est Joël Batz dans les buts.
Carré magique.
Il y a Batz dans les buts, Batiston, Leroux, Bossis, Domergue derrière, Fernandez, Gires, Tigana, Platini, le carré magique, Lacombe, Bellone devant.
Ouais,
C'est beau. Hein.
C'est quand même pas mal.
Mais c'est marrant parce que dans toutes les compètes qu'on gagne, c'est les numéros 9 finalement, ils sont un peu en retrait toujours par rapport aux 10. C'est-à-dire qu'on a pas, tu vois, comme Paolo Rossi ou quoi, on a pas, et nous c'est toujours le 10 ou le 9 et demi qui marque les esprits, quoi. C'est les 9, nous, c'était Lacombe, c'est un super joueur.
Mais juste Fontaine, non?
À part 58, juste Fontaine, c'est le seul. Voilà.
C'est vrai. En 86, c'est Stopira. D'ailleurs, c'est même étonnant. Enfin, au début, on est un peu étonné qu'il soit titulaire parce que la Coupe du Monde démarre avec Papin. Bon, bah, finalement, c'est Platini. C'est le milieu de terrain.
Il y a Rochoteau qui n'a pas le numéro 9 dans le dos, mais qui joue numéro 9 aussi.
Moi justement, il y a un joueur dans cette équipe. Alors, c'est pas ma génération, mais j'ai jamais trop accroché. Et pourtant, c'est soi-disant, c'est une légende. C'est Rochoteau. Moi, je j'aimais pas trop sa façon de jouer ce garçon. Je le trouvais pas vraiment technique, pas vraiment j'ai jamais été trop fan de ce joueur, alors que c'était une légende, on est d'accord.
Ouais, ah mais bon,
pourquoi en fait, qu'est-ce qui te...
Je trouvais pas très adroit.
Mais t'as raison, en équipe de France, il faisait balourd. En équipe de France, par rapport au PSG, où moi je le suivais, j'adorais ce joueur, je trouvais qu'il faisait un peu balourd en équipe de France. J'arrivais pas à trouver d'équivalent de ce quand il était en club.
Il n'y avait pas un côté élégant quand il touchait le ballon et tout.
Il y avait quand même une accélération. Il y avait des dribbles qui était emmerdant pour l'adversaire. Il obtenait des coups de pied arrêtés,
il obtenait des coups francs.
Donc c'était
quand même. Si à la Coupe du Monde 82, le match contre l'Irlande, il est bon.
Un gars dangereux.
Contre l'Allemagne, il est bon quand il obtient le penalty. Non, quand même. Même si il commence l'aventure dès 77 dans le match contre la Bulgarie, c'est lui qui marque le premier but. En fait, il a pas raté grand chose. Hein. Toutes les aventures des Bleus.
Mais par rapport au nombre de présences qu'il a, je trouve qu'il marque pas les esprits autant qu'il pouvait marquer en club.
En plus, il avait quand même un caractère très introverti.
On refera la carrière de Rocheteau, si vous voulez, une autre fois. Mais restons sur Platini. Donc, on a fait l'Euro 84, mais entre temps, quand même, il y a l'arrivée à la Juve, donc là c'est en 82, donc la signature à Turin. Et le début se passe pas très bien, Daniel.
Oui, à la Juve, et au début, les mecs se demandent si. Parce qu'ils le voulaient depuis longtemps. Hein. Ils le regardaient depuis longtemps. À l'époque, comme tu prenais très peu d'étrangers dans les clubs, il fallait pas se tromper. C'était le mec qui, soit il t'apportait une plus-value, soit c'était un échec.
Oui, parce qu'en plus, il a tout le temps été bon contre les Italiens.
Exactement. Il avait été au mois de février avant la Coupe du Monde, dans un France-Italie au Parc des Princes. Dans un France-Italie au Parc des Princes, il met un but fantastique à Dinosov qui avait marqué les esprits. Exactement. Il y avait eu le match dont parlait Julien tout à l'heure à Naples où il avait mis le coup franc. Donc bon, les Italiens le voulaient. Il y avait ses origines qui semblaient indiquer qu'un jour ou l'autre, il fallait qu'il aille jouer en Italie dans la plus grande équipe italienne, la Juve. Et il y va. Mais quand il y va, le problème, c'est que la Juve, c'est les champions du monde.
Il y en a 6. Il arrive avec Boniek qui lui est le deuxième meilleur joueur derrière lui de la Coupe du Monde, enfin hors Italien.
Lui aussi a brillé avec la Pologne, effectivement. Et ils arrivent tous les deux, et Platini a un petit peu de mal au début, mais je sais pas s'il faut pas relativiser, parce qu'on avait dit difficulté. À l'arrivée, il termine quand même meilleur buteur cette année-là. Ça veut dire qu'il a pas trop traîné en route non plus, quoi. On va dire que dès octobre, ça allait. Mais effectivement, tout de suite, il s'est pas immédiatement imposé. On va dire dès le mois d'août, quoi. Mais avant Noël, ça y est, il était déjà parmi les meilleurs joueurs et tout le monde commençait déjà à être fan de lui là-bas, quand même.
Et effectivement, il termine meilleur buteur, donc ça on l'a dit tout à l'heure. Il est champion avec la Juve.
Ils vont en finale de Coupe d'Europe, 83, ils perdent contre Hambourg, mais ils vont en finale.
Ouais, exactement. 84, ils sont en Coupe des Coupes.
Et il la gagne.
Voilà.
Et 85, il gagne la C1.
Avec le EZL. Alors on peut quand même prendre deux secondes pour raconter cette finale du EZL qui va rester comme l'énorme blessure de sa carrière.
Bien sûr, et qui va le marquer à vie, et derrière il n'aura plus goût à rien.
Alors on rappelle que c'est la finale, donc Liverpool-Juve, qui a avant le match ses mouvements de foule, ses débordements, sans refaire l'histoire et les responsabilités des uns et des autres. Il se trouve qu'il y a des morts à ce moment-là. La question, c'est de savoir est-ce que les deux vestiaires étaient tenus au courant de tout ça. En tout état de cause, les dirigeants disent, l'UEFA dit, on doit jouer absolument pour maintenir les gens dans le stade et maîtriser la sortie et pas faire en sorte que chacun parte de son côté et qu'il y ait possibilité qu'ils se retrouvent. Donc, il faut jouer. Et donc, c'est dans ce climat-là qu'a lieu le match et que Platini marque et célèbre son but. Et c'est ça qui va lui être reproché derrière.
Et c'est ça qui va lui être reproché. Et c'est ça que lui va mal vivre, parce que lui-même s'en veut. Parce qu'il s'en veut. Il s'en veut de ne pas prendre la mesure des choses. Il s'en veut de pas comprendre réellement tout ce qui s'est passé. En fait, c'est vraiment une cicatrice profonde chez lui.
C'est un réflexe qu'on peut quand même imaginer. En plus, donc
de quoi, de célébrer le but,
surtout s'il n'est pas au courant de
il sait qu'il y a eu des affrontements, mais il sait pas la nature de la gravité.
Et puis pour lui, c'est un aboutissement. Je veux dire, marqué en finale de Ligue des Champions, il l'a pas gagné cette compétition encore. Donc il est emporté par le sportif.
Mm-hmm. Ouais.
Mais à l'époque, il y a une grosse campagne contre lui après médiatique, je veux dire.
Franchement, pas trop.
En France, pas du tout, en tout cas.
Encore une fois, on parle d'années où les polémiques foot, les émissions foot sont rares. Quand il est à la Juve, c'est comme un peu une équipe française. Hein. Moi, il faudrait le vérifier, mais j'ai quasi un souvenir certain. La demi-finale de l'année d'avant, ils doivent jouer contre des Polonais, ça doit être Lodz, un truc comme ça. C'est diffusé à la télé française. Un match Juve contre une équipe polonaise s'est diffusé à la télé parce que Platini est à la Juve. Normalement, tu diffuses pas les matchs étrangers. Déjà, même qu'à l'époque, les matchs, ils étaient même pas tous diffusés quand c'était les équipes françaises.
C'était quand c'était à domicile seulement des fois. À l'extérieur, des fois, on les voyait pas les matchs. Ouais,
bien sûr.
Mais il faut voir aussi que, bon, après c'est long, mais l'année d'avant, il y avait eu un Liverpool en finale de Ligue des Champions, de Coupe des Champions, Liverpool-Roma, qui s'était très très mal passé dans l'autre sens, c'est-à-dire avec les mecs de la Roma qui avaient chargé les supporters de Liverpool. Donc c'était emprunt un peu d'un côté un peu revanche, un peu malsain, déjà au départ.
Pour répondre à ta question, Jean-Louis, est-ce que. Il y avait des débats contre Platini. Moi, ce que je me rappelle surtout, c'est les débats. Est-ce qu'il fallait reprendre le match? Est-ce qu'il fallait le jeu pas reprendre? Est-ce qu'il fallait jouer ce match? Le pourquoi, il y avait le pour et le contre. Certains disaient non, il fallait pas. D'autres disaient sinon, il y aurait pu y avoir encore plus de morts et de blessés. Donc c'était là-dessus, moi, je me rappelle qu'il y avait
la polémique était plus sur les Belges, sur les Belges, l'organisation des Belges, sur les CRS, sur la police belge, que sur les Platini et le reste. Hein, moi, dans mon souvenir, ils étaient remis vachement en cause. Il y a eu des condamnations pour homicide involontaire de responsables de la sécurité belge. Donc c'est énorme ce qui s'est passé.
Ah oui,
et lui,
bien
Platini,
sûr, bien sûr.
Platini, lui, finalement, bon. Moi, j'ai pas souvenir, honnêtement, d'une grosse polémique en France sur Platini.
39 morts hein, au Wesel. Et effectivement, lui, en tout cas, ça l'a marqué, ça l'a traumatisé. Et d'ailleurs, il a mis des. Je crois qu'il a dû attendre 25 ans avant d'en reparler. Hein. Enfin, je me souviens, c'était un truc tabou quand on faisait Platini en interview. C'était impossible d'aborder ce sujet. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, il gagne quand même la Coupe des clubs champions à ce moment-là, avec la Juve, ce qui étoffe encore un peu plus donc son palmarès. Et arrive ensuite la Coupe du Monde 86.
Il joue encore blessé.
Exactement. Alors, on va y revenir dans un instant et on finit comme ça la carrière de Michel Platini, donc avec la fin de sa carrière et donc la Coupe du Monde 86. À tout de suite dans Team Dugas sur RMC. Tiens, Daniel, s'il faut donner le plus beau but de Platini, tu dirais lequel?
Celui qui a jamais compté.
En Coupe Intercontinentale.
Le Coupe Intercontinentale. Independiente.
Si je il est comment? C'est quoi ce but là?
Mais tu sais, c'est quand il fait espèce de jongle avec sombrero sur le défenseur, il reprend reprise volée pied gauche. Et en fait, franchement, l'arbitre le refuse pour un hors-jeu.
C'est pas là où il s'allonge, par terre.
L'image comme ça, l'air de dire à l'arbitre, mais pourquoi tu me refuses ce but, quoi. Et c'est vrai que ce but, en plus, il est valable. Je crois qu'il n'y a absolument pas hors-jeu.
Il n'y a rien du tout.
Il n'y a pas avec la Juve aussi un sombrero comme ça?
Si.
Non, avec la Juve.
C'est pas vraiment un sombrero, c'est
un lob.
Oui, qui accorde un lob sur la défense.
Il y
en a un autre, c'est celui qui fait avec le talon. Il y en a un qui fait avec le talon.
Ah, c'est celui-là.
Il y en a un où sur un corner, en fait, la défense remonte et lui, il balance le ballon au-dessus de tout le monde, il récupère de l'autre côté. Et il y en a un où il se fait une sorte de sombrero, mais avec le talon. Où il récupère le ballon de l'autre côté et il marque, ouais.
Ouais, c'est pas mal.
Mais honnêtement, moi, un but qui m'a marqué, c'est sa tête plongeante. Je sais plus, c'est contre la Yougoslavie.
Oui. Il a Yougoslavie, le deuxième but contre la Yougoslavie.
C'est incroyable.
Centre de Batiston et il va faire une tête plongeante. Et en plus, le jeu de tête n'était pas sa grande spécialité.
Ah, il la décroise en plus, il va la mettre à l'opposé.
Il en a mis quelques-uns de la tête, mais plus comme un renard, quoi. Parce qu'il y en a, il y a aussi. Je confonds. Oublié.
Avec un autre sport ou avec un autre joueur?
Les deux, effectivement. Non, parce qu'en même temps, je me revois les buts parce qu'effectivement.
Ah non, c'est de Last Dance, tu confonds avec un dunk de Jordan.
Non, effectivement, la tête plongeante de la Yougoslavie, je l'avais pas, donc j'ai voulu me le remettre en même temps. Donc voilà, ça m'a perturbé. Il faut quand même donner aussi ses stats, hein, puisque donc c'est 354 buts. En 655 matchs. Voilà, je voulais quand même donner ça. Ça, c'est toute compétition confondue sur l'ensemble de la carrière. C'est beau. Allez, à tout de suite.
RMC, 18h20.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, les amis, 19h48. Team Dugas continue pour encore une petite dizaine de minutes avec à refaire la carrière de Michel Platini.
Exactement. Alors, en direct, hein, en 2020, il y a des matchs en Angleterre, en Espagne, en Italie. Il y a notamment Naples, l'Atlético, Leicester qui jouent en ce moment. Il n'y a pas de but sur aucune des pelouses. Les matchs à suivre à partir de 20h dans le RMC Football Show spécial foot européen. Donc, avec en plus les enjeux des rencontres à venir ensuite. Il y a Barça-Bilbao ce soir, Tottenham-West Ham. Donc il y a de jolis matchs. La carrière de Platini, on est donc arrivé à 86, la Coupe du Monde. Donc il joue blessé, il la joue blessé en entier ou il se blesse pendant la compétition?
Non, il a toujours cette pubalgie qui traîne depuis très longtemps, qui a une blessure qui est, en gros, de temps en temps le laisse tranquille, mais je crois qu'elle date déjà d'il y a plus d'un an. Des fois ça va mieux, mais en gros c'est une blessure récurrente qui l'empoisonne, qui va lui dire il faut que j'arrête parce que j'en peux plus, il a tout le temps mal. Et c'est pas pendant la compète quoi, c'est juste qu'il a mal depuis plus d'un an maintenant.
Moi je connais forcément moins bien que vous Platini, il était comment au niveau du caractère, dans son leadership?
C'était l'aspect que je voulais aborder aussi.
En fait tous les joueurs que moi j'ai rencontrés de l'époque de l'équipe de France, celui qui m'en a le plus parlé c'est Luis. Mais en fait aujourd'hui toute cette équipe là ils continuent, ils sont très liés. Platini était un type qui faisait l'unanimité, tous ses coéquipiers l'aimaient, le respectaient. Et Luis m'avait expliqué un jour pourquoi on l'aimait, on le respectait, et pourquoi moi j'étais prêt à me mettre en 4 sur lui pour le terrain quand il courait moins que moi. C'est que ce gars-là donnait énormément. Il m'expliquait par exemple que si jamais il y avait à croquer une pub, un contrat, un machin, tout ça, il se démerdait toujours pour faire croquer aussi les autres. Ouais. Il se démerdait toujours pour que, en gros, mais à la You, il faisait la même chose, parce que tu sais, il a toujours eu besoin, lui, dans son jeu. À l'époque, on disait que le 10 avait toujours besoin du 6. Lui, il savait que pour que son jeu soit en plénitude, il fallait que son équipe tourne pour lui aussi, quoi. Donc, il ne pouvait pas faire la star perchée qui était pas proche des autres, parce qu'il savait qu'il avait besoin de l'équipe et notamment de la protection du milieu de terrain et du 6. Et donc, il crée ce lien avec les autres et notamment le fameux 6 qui le protégeait un petit peu, quoi.
Il se mêlait des compos d'équipe, il faisait l'équipe ou pas du tout?
Ça, lui, il a tout le temps dit que non.
La légende dit oui, mais lui, il a toujours dit non.
Et lui a toujours dit non, mais on savait que le lien qu'il avait avec Hidalgo était tellement fort que oui, ils en parlaient.
C'était tellement évident pour lui qu'ils en apercevaient même pas.
Non, mais disons que sans dire il faut faire telle équipe, Hidalgo.
Tu veux dire que quand Jean-François Lariot, s'il joue pas en équipe de France, ça a aucun lien avec Michel Platini?
Voilà, là, on peut dire que c'est quand même difficile de croire que.
Non, mais à partir du moment où tu fais l'équipe pour que ton meilleur joueur se sente dans les meilleures conditions, pas forcément, ça dépend de lui, quoi.
Exactement.
Coach, sur le leadership de Platini,
j'ai eu le plaisir de le connaître un peu, donc ne serait-ce que dans la préparation du match, mais c'est un gars qui est chambreur, en plus, bon, oui. il taquine et c'est assez adroit, l'humour il a, et puis dans aussi peu de temps, 2-3 jours, je le trouvais bon à tout. Il est bon aux cartes, il est bon aux boules, il est bon au ping-pong. Et après, au golf, il paraît qu'il est bon aussi, donc oui, c'est quand même. C'est quand même un gars complet qui est joueur et en plus un beau joueur.
Mais Christophe, tu l'as souvent dit, toi, est-ce que les grands champions sont pas des mecs qui font aussi l'unanimité avec les autres, quoi? Est-ce que t'as connu des mecs qui étaient vraiment super forts et qui n'étaient pas aimés par l'équipe? Zizou, il était aimé par ses coéquipiers.
Ouais.
Il était respecté, il était aimé.
Tu m'avais pas dit Stoichkov? Tu sais pas Stoichkov, la dernière fois, il était un peu lui, il était un peu à part.
Ouais, il était peut-être.
Mais pas avec ses partenaires. Il était à part.
Ouais.
C'était contre l'entraîneur.
Après c'était un bon coéquipier, mais c'est avec les entraîneurs, et quand il avait un sentiment d'injustice, il devenait hystérique, donc il était un peu fou, quoi. Il était surtout un peu fou, il est pas un grand joueur, mais pas très stable, quoi. Il pouvait monter en pression pour pas grand chose, donc c'était un peu plus compliqué, ouais. Mais c'est vrai que les grands joueurs en général, t'as rarement des problèmes avec les grands joueurs, il faut le reconnaître, ouais.
Alors derrière cette Coupe du Monde 86, il y a quand même un an à la Juve. Bon, un an qui se passe pas très bien. Hein.
Pas bien du tout. Il est cramé. C'est fini. Pour lui. Il ne croit plus du tout. Il sait que c'est la dernière
année. Il est cramé jeune quand même. Non,
ouais. Mais avec cette pubalgie, ce truc le plombe, le mine complètement. Il veut arrêter. Il en peut plus. Et on sait assez vite. Hein, il annonce assez vite que c'est la dernière saison. Et je crois que c'est terrible. Il doit mettre 2 buts cette année-là.
Toutes compétitions confondues, mais
2 en championnat, ce qui est complètement fou, quoi.
Et c'est quoi l'idée de sa reconversion? C'est pas d'être entraîneur, parce que je crois qu'il est forcé pour être sélectionneur.
Au début, on parle pas de reconversion. Moi, je me souviens de son dernier match qui est terrible parce qu'en plus il pleut des cordes. Enfin, c'est vraiment une journée d'une tristesse incroyable. Son dernier match en équipe de France, ça doit être contre l'Islande peut-être, une sale victoire 2-0, pas un super match. Tout dans sa fin de carrière est très très triste. Franchement, moi je me souviens que j'étais triste. Hein. Platini qui arrête le foot, c'était... j'étais abattu, c'était vraiment l'impression qu'une époque se tournait dans ma vie, quoi.
Et moi, à un moment donné, j'ai vraiment cru qu'il allait plus être dans les médias, encore plus que ce qu'il était, parce que, rappelle-toi, quand il était joueur, il avait une émission qui s'appelait Numéro 10. Tu te rappelles pas de ça?
Non.
À la télé. Ah bon? Ah, je te jure, il y avait une émission. Ah, peut-être que c'était des numéros exceptionnels et tout. Il y avait une émission qui s'appelait Numéro 10 avec Michel Platini. Je sais plus si c'était sur France 2 ou quoi. Et donc, et tu sentais que le mec, il avait un truc. Et d'ailleurs, c'était peut-être le meilleur consultant qui ait jamais été pendant le match. Franchement, on en reparlera peut-être après, mais enfin, franchement, les matchs de Coupe d'Europe avec Platini comme au commentaire, mais c'est fabuleux. Vrai,
en fait, il voyait des trucs où c'était un peu fou. Quoi. Parfois, tu te demandes, tu te disais, mais pourquoi
il a vu le match, avant.
Ouais, voilà, il disait, tiens, je vois bien ça et ça et ça. Tu te demandais parfois s'il faisait pas des paris et qu'il les gagnait parce que ça semblait un peu aberrant de deviner les choses comme ça. Quoi. C'est vrai.
Ouais, est-ce qu'il avait un défaut, ce Platini?
Moi, je lui en vois pas beaucoup, moi, en fait.
Ouais, moi non plus.
Je lui en vois pas beaucoup, même dans son après-carrière.
Il y a une histoire de facture à la FIFA. Mais bon.
Non, parce que finalement, tu verras que tout ça va tomber à plat. Et en plus, lui, il l'a toujours dit clairement. Aussi bien pour le Qatar, il a expliqué pourquoi il a voté. La facture, tout semble clair petit à petit et se mettre en place sur ce qui s'est passé. Franchement, je vois pas grand chose.
Si, hein, comme entraîneur, comme sélectionneur.
Sélectionneur, il l'a tout de suite dit, c'est pas pour moi.
Oui, voilà. Voilà, mais bon.
Quand ils font la campagne, ils vont à l'Euro 92. Tout le monde sait que c'est Houillet qui dirige les séances, tout ça. Platini, il a juste l'instinct de parler, de monter le duo Papin Cantona devant, de faire en sorte que Cantona revienne en équipe de France, de vraiment lui faire la place, de les associer tous les deux, de faire en sorte qu'ils se qualifient. Mais dès qu'ils sont à la compète, il y a cette sortie. Peut-être que les joueurs ont mal pris à l'époque. C'est quand ils vont à l'Euro, il dit, moi à mon époque, Luis, en gros, je schématise, oui, je il dit, en gros, à mon époque, Luis, c'était le moins technique de l'équipe, on va dire le bon 1 de l'équipe. Aujourd'hui, c'est notre numéro 10, c'est dire le niveau technique de l'équipe, quoi.
Ouais, mais oui. Ouais. Un truc que t'aurais pu dire, Daniel.
Non, mais en plus, il avait raison.
Le meilleur de jeu de l'époque, plus, c'était Christian Pérez. C'est pas non plus un top player.
En plus, il avait raison. Sait que Luis avait fait des progrès dans plein de secteurs de jeu.
Il aurait pu cacher cette vérité, que c'était pas.
Ouais, c'est ça. Roland, t'as déjà été le plus technique de ton équipe?
Comment ?
T'as déjà été le joueur le plus technique de ton équipe ?
À l'âge de 12 ans, oui.
Mais Deschamps l'avait mal vécu parce que Deschamps avait été sélectionné par Platini, il était avec. Et je crois qu'il y a une sorte de...
Ils n'ont pas une super relation, les deux.
Ouais, ils n'ont pas une super relation, mais ils ne voient pas le foot de la même façon, ils ne voient pas la vie de la même façon, et ils n'étaient pas pareils sur le terrain. Alors, si, Platini avait quand même ce petit truc.
Il ne reste plus qu'une minute.
Les joueurs pas techniques, il avait un peu de condescendance. Ouais, ouais, c'est un peu vrai. Ouais, ouais, c'est vrai.
Dugas, tu préfères le foot de Platini ou de Deschamps ?
Il y a un truc qui est drôle, c'est que dans le téléfoot, qui était juste avant l'Euro, ils étaient tous à Clairefontaine avec JPP tout ça, et alors on lui demande vous avez pas peur que Jean-Pierre Papin batte votre record de nombre de buts à l'Euro? Et il avait dit si à 8 buts je le sors de l'équipe, il joue plus. On a été tranquille, hein. Ça a été vite réglé.
Bon, et Julien, t'as bien raison, hein, j'ai retrouvé un extrait là de Coluche et Platini qui parle de foot dans l'émission présentée par Platini et Bernard Père, numéro 10. Voilà.
Je suis
l'ancêtre de Team Dugas, donc à l'époque.
Je suis hyper mnésique, donc je me souviens de toutes les conneries que je vois.
Merci, messieurs, c'était passionnant de refaire la carrière de Michel Platini.
Salut.
Merci, coach Courbis, Daniel, Julien, on vous retrouve dans l'after. Ce soir, 22h, et Dugas, à demain, 18h. Pour Team Dugas, dans un instant, le RMC Football Show spécial foot européen. Ciao.
RMC, 18h-20h, Team Dugas.